Et cela, ça suppose une pensée détachée. La deuxième raison qui fait que la pensée rationnelle passe par le détachement, c'est la généralisation. Il faut pouvoir, pour penser de façon plus ample, appliquer un concept à des objets qu'on n'a jamais vus encore. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand on apprend, par exemple, la catégorie proie, hein, supposez que je sois une chouette, nous allons revenir à la chouette tout à l'heure, j'ai appris que les petites musaraignes sont mangeables, je dois savoir si les mulots aussi font partie de la catégorie de ma proie. Est-ce que c'est quelque chose de bien pour moi? Si je suis une jeune chouette, je dois apprendre à généraliser mon concept de proie à de nouveaux objets, à des choses qui n'ont pas exactement la même forme, etc. Donc je dois avoir cette possibilité pour généraliser, d'identifier des objets comme ayant un certain type de rapport avec des modèles internes de l'univers. Et enfin, cette généralisation demande aussi que je puisse combiner les choses que j'ai déjà acquises. Et pour combiner, eh bien, il faut avoir la représentation d'un porteur qui a des propriétés ou qui en manque. Il faut que je me représente la propriété, par exemple, d'une proie qui est jeune, en bonne santé, versus jeune et malade, par exemple. Ce n'est pas sûr que ce soit recommandé pour moi de me jeter sur une proie malade. Bon, évidemment, là, je simplifie outrageusement et j'utilise les termes humains et anthropomorphiques pour vous laisser, pour vous faire comprendre ce que je veux dire, mais vous faites vous-même les rectifications. Alors, maintenant, comment savoir si un animal accède ou non à une représentation détachée? Alors, il y a deux méthodes. Ou bien on analyse ses comportements pour voir s'il manifeste une capacité de révision d'erreurs et de généralisation. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas infaillible parce que l'évolution a sélectionné des mécanismes aveugles qui nous trompent complètement, c'est-à-dire qui paraissent manifester des capacités de révision et de généralisation, lors même que l'animal n'en a pas du tout. Donc c'est une méthode, cette méthode des comportements, qui nous a abondamment induit en erreur, en particulier en primatologie. On a prêté aux primates non humains des capacités qui paraissaient présentes parce qu'elles étaient étonnamment similaires à celles des hommes. Et puis on se rend compte aujourd'hui que ces capacités, en fait, ne sont pas du tout liées à la maîtrise des concepts en question, mais sont des mécanismes aveugles. Alors la deuxième méthode est d'examiner les systèmes neuronaux. Et c'est la méthode qui m'a paru intéressante à suivre en raisonnant de la manière suivante. C'est un raisonnement extrêmement simple. Tout le monde aurait pu l'avoir. Pour qu'un animal puisse représenter des objets indépendants, il faut qu'il puisse faire correspondre à une même région de l'espace plusieurs propriétés, tout simplement. Hein, si vous voyez cette bouteille ici, pour savoir que c'est une bouteille et qu'elle a des propriétés de reflet de la lumière, couleur, certains poids, certains aspects tactiles, il faut que vous puissiez mettre toutes ces propriétés ensemble en disant ben, « tout ça, ça appartient à ce machin-là, qui est là ». Donc il faut que vous ayez la possibilité d'associer à une certaine portion de l'espace, ce qu'on appelle l'objet, des propriétés diverses, hein, des saveurs, des aspects visuels, auditifs, tactiles, etc. Eh bien ça, cette capacité de mettre ensemble toutes ces propriétés venant de modalités perceptives différentes, ça peut se tester très facilement. Et nous allons le voir sur le cas de la chouette effraie. Tito Alba. Voici une chouette en train de chasser. Voyons ce qui se passe lorsque cette chouette est face à un petite proie. Nous avons d'une part, évidemment, c'est pas l'échelle, hein, je sais, c'est pas l'échelle. J'ai déjà eu beaucoup de mal d'obtenir ce lapin. Ça aurait dû être un rat, mais j'en ai pas trouvé. Alors, nous avons ici deux modalités principalement qui interviennent. Nous avons la vision. Hein, la chouette a une vision qui, en fait, a des caractéristiques proches de la vision humaine, sauf que sa tête tourne autour de son cou d'une façon, évidemment, dont nous sommes incapables, mais La structure neuronale de la vision est très bien connue, a été très étudiée récemment, et elle correspond de façon très frappante avec la structure de notre cortex. Donc le toit optique de la chouette et le cortex visuel humain sont vraiment très analogues. Ce qui d'ailleurs nous renseigne beaucoup sur la structure visuelle, sur la structure anatomique de la vision chez l'homme. Donc nous avons ici deux caractéristiques qui interviennent. Nous avons l'audition, hein, qui vient du fait que la proie ici, elle fait quelque chose, elle bouge un peu. Donc l'animal entend et entendant, il se sert de ses deux oreilles. Et le décalage du son entre les deux oreilles renseigne l'animal sur l'exact endroit où se trouve la proie. Mais au moment où il fait cela, il voit également la proie. Donc il y a un échange qui se fait d'informations entre sa vision et son audition. Et cet échange est tel que l'animal doit pouvoir extraire un invariant. Les structures visuelles et les structures auditives doivent partager le même jugement sur l'endroit où se trouve la proie. Donc, pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait une communication de la formation spatiale entre les neurones de la vision et de l'audition. Eh bien, ces neurones existent, ce sont des neurones bimodaux. Hein. Ce sont des neurones qui réagissent aussi bien lorsque l'animal entend que lorsqu'il voit. Et pour le montrer, pour montrer l'existence de ces neurones et comment ils fonctionnent, nous avons le travail remarquable de Knudsen depuis les années 80, qui s'est poursuivi depuis par d'autres travaux, par lui-même et par d'autres. Knudsen a eu l'idée de boucher l'oreille d'une jeune chouette effraie, ce qui perturbe évidemment la correspondance entre la représentation du stimulus visuel et la représentation du stimulus sonore, qu'on appelle équilocal, parce qu'il s'agit du même endroit. Eh bien, très peu de temps après avoir fait cette opération, nous avons une restauration de la congruence spatiale par réalignement de la carte auditive sur la carte visuelle. Et ça, on peut le faire parce qu'on peut sacrifier les animaux et donc on peut voir exactement ce qui s'est passé dans leurs neurones. Eh bien, il y a un réalignement, c'est-à-dire que sur la base de l'information visuelle, leur carte auditive s'est transformée, elle a bougé pour se recadrer sur l'information spatiale donnée par la vision. Alors, la recalibration s'exerce lorsqu'il y a un désaccord entre deux modalités sensorielles sur le lieu. Hein, par exemple, il faut qu'il y ait un angle qui ne dépasse pas 15 à 20 degrés. Il ne s'agit pas de recalibrer inconsidérément. Donc la nature, d'une certaine façon, a sélectionné un angle. Elle a sélectionné un espace temporel, c'est-à-dire qu'il faut que l'expérience visuelle et l'expérience auditive ou une autre expérience, parce qu'on peut recalibrer évidemment en fonction des sens que l'on a dans la nature, il y en a beaucoup, on a parlé d'écolocation tout à l'heure, mais il y a le sens électrique par exemple chez les requins, etc. Et tout ça se prête à une recalibration. Il faut qu'il y ait un espace temporel qui évolue entre 100 et 1500 millisecondes. Il faut qu'une source sensorielle domine les autres, mais ça, de manière générale, c'est le visuel, mais pas nécessairement. Et enfin, ce qu'on sait, c'est que la recalibration se fait de façon automatique et ne suppose aucune connaissance particulière de l'environnement. Donc nous avons là vraiment quelque chose qui est très intéressant pour comprendre d'où vient la pensée détachée. Hein, sans cela, on est sûr que la pensée détachée est impossible. Parce que sans cela, un animal ne pourra pas mettre ensemble les différentes propriétés d'un objet. Hein, s'il ne peut pas mettre ensemble ses propriétés dans un même espace, il a une vision kaléidoscopique du monde, mais il n'a pas une représentation par objet. Donc il ne mémorise pas les choses en vertu des objets qu'il a perçus. Donc ce mécanisme de recalibration, il existe chez les oiseaux, les reptiles et les mammifères. Donc nous avons là des raisons de penser, hein, ce n'est pas une démonstration évidemment logique, mais nous avons des raisons de penser que les oiseaux, les reptiles et les mammifères sont capables de penser détachés. Alors, les animaux capables de cela, eh bien, ils peuvent catégoriser donc le monde en objets et en événements qui affectent ces objets, tandis que ceux qui en sont dépourvus, eh bien, ils catégorisent des propriétés étroitement circonscrites par leurs besoins présents. Donc j'en viens à la conclusion de ces réflexions. À quoi pensent les animaux? Alors, ils pensent évidemment pour agir, et pour agir immédiatement ou à court terme. La différence avec l'homme, c'est que l'homme est capable d'agir à moyen et à long terme aussi. Or, ce qui paraît faire la différence, et n'oubliez pas que cette différence, elle est dictée par les conditions de survie, c'est l'homme qui a besoin d'avoir une mémoire à long terme. Les animaux dont nous parlons, là, aujourd'hui, la chouette effraie, etc., n'a pas besoin d'avoir une mémoire à long terme. Elle n'a pas de culture, justement, à préserver. Ce qui, probablement, permet à l'homme d'avoir cette capacité de planifier à long terme, c'est précisément la maîtrise d'un langage extérieur. Un langage extérieur permet de garder des traces matérielles que le cerveau n'a pas à garder en permanence parce que ces traces sont laissées dans le monde extérieur sous forme de signes variés, d'écriture ou de rituels ou de monuments. Ces rituels, ces monuments, ce sont des signes qui permettent au cerveau, si vous voulez, de retrouver ces marques sans avoir à conserver en permanence l'activité neuronale qui lui permettrait de les retrouver. Ça dépose dans l'univers du cerveau, si vous voulez. Les rituels, etc., c'est du cerveau à l'état solidifié qui permet ensuite à l'organisme de vaquer à ses occupations sans avoir à faire un effort cognitif supplémentaire. Donc là, le fait d'avoir un langage externe, des rituels, des manières de procéder qui sont partagées par un groupe et qui se reflètent dans l'environnement physique, tout cela, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée d'un animal non engagé. Les représentations que nous avons examinées, qui sont la manière dont les animaux pensent, elles sont destinées à permettre l'action qui convient dans l'espèce considérée. Donc, en général, trouver de la nourriture, s'accoupler, défendre son territoire physique et, dans le cas des espèces sociales, défendre, établir et défendre son rang social. Bon, tout ça, évidemment, donne lieu à des représentations. Donc, par exemple, chez les primates non humains, les animaux possèdent des représentations très précises du rang social. Bien sûr, ils n'ont pas les mots pour le dire, mais ils ont les représentations qui leur permettent de s'orienter socialement, de savoir qui est le dominant, qui est le dominé, qui est avec qui est le fils de qui est la fille de qui est la cousine de qui. Tout cela, eh bien, les primates sont capables, en tout cas les grands primates, sont capables de se le représenter sans pourtant avoir les mots du langage pour le faire. Ces représentations sont d'autant plus nécessaires, je vous l'avais dit au début de ce papier, que l'environnement est plus changeant et qu'il y a compétition sur les ressources. Donc nous voyons effectivement que c'est les animaux dont la niche écologique est soumise à variation, est soumise à compétition, ce sont ces animaux dans lesquels se dégagent des représentations qui vont devenir progressivement de plus en plus complexes. En effet, nous en reparlerons la prochaine fois, ce qui se déclenche lorsqu'un animal a des représentations et qu'il est en compétition et que son univers est changeant, ce qui se déclenche, c'est ce qu'on appelle une course aux armements. C'est-à-dire que c'est au plus malin, c'est le plus malin qui va gagner les ressources. Et donc ça constitue une pression sélective qui va permettre l'émergence de nouvelles manières d'exploiter les représentations. Par exemple, de tromper les congénères ou de tromper surtout les prédateurs ou les proies pour tirer parti du fait que ces prédateurs, ces proies, ces congénères ont des représentations, qu'on va pouvoir les manipuler justement dans leur capacité représentationnelle. Et ceci s'applique évidemment surtout à l'homme, qui est passé maître dans la capacité de tromper autrui en manipulant les représentations d'autrui. Alors ce que l'on peut dire aussi sur la base de ces brèves considérations, c'est que les animaux non engagés peuvent stocker des représentations. Qu'est-ce que c'est que ces représentations? Ce sont des images, ce sont des instantanés, si vous voulez, des situations critiques. Je dis ça de façon très spéculative, bien sûr, mais ça n'est pas entièrement spéculatif. Il y a là-dessous des hypothèses empiriques qui sont liées à des travaux sur ce qu'on appelle la mémoire de travail. Chez l'homme, la mémoire de travail, c'est ce qui nous permet de nous organiser lorsque nous avons une tâche à exécuter. Visiblement, quelle que soit la tâche, qu'on soit un homme ou qu'on soit un mammifère ou qu'on soit un oiseau, par exemple, dès qu'on a une tâche à exécuter, eh bien, on est obligé de se représenter les étapes à suivre pour exécuter cette tâche. Or, il est intéressant de voir comment fait un homme. Comment fait un homme? Eh bien, il se représente langagièrement, enfin, par le langage, les étapes, ou au moins il a quelques sous-buts qui sont présentés par des mots, ben, tourner à gauche, ensuite à droite, ensuite je descends les escaliers, et puis j'ouvre la porte. Hein, en gros, voilà une façon de se retrouver dans un itinéraire. Comment fait un animal? Eh bien, il n'a pas, certes, les mots, mais il a une représentation séquentielle des différentes images qu'il doit s'attendre à trouver. Je vais d'abord trouver telle forme, et puis je vais trouver telle forme, etc. Là, nous savons que, par exemple, les guêpes sont capables de cela, je vais y venir dans un instant, elles sont capables de repérer des formes, et pourtant elles n'ont pas encore de pensée détachée. Donc, il est quasiment certain que le format de la pensée, c'est des patterns, hein, ce sont des configurations d'objets ou des configurations spatiales remarquables qui sont mémorisées et qui sont séquentialisées dans la mesure où cette séquentialisation de patterns correspond à des actions utiles. Alors, exemple de choses que l'animal est capable de faire, l'animal non langagier, le cas du jet me paraît le plus extraordinaire. Le jet peut se rappeler où et quand il a caché ses glands ou d'autres proies, puisqu'il peut aussi cacher des proies qu'il a capturées, des insectes. Il peut se rappeler où et quand il les a cachés, et cela jusqu'à 2000 d'entre eux. Et il peut se rappeler, en outre, s'il a été observé par un congénère quand il remplissait une cache, et recaché si nécessaire. C'est-à-dire, alors ça c'est vraiment extraordinaire. Je dois dire que c'est un travail qui est actuellement en train de... il vient juste d'être publié et il attire l'attention de tout le monde parce qu'on se demande comment cet animal qui n'a pas de concept mentaux du tout, comment cet animal est capable de comprendre le rôle que joue l'observation de son action de cachet pour d'éventuelles manœuvres de vol. Eh bien, ce jet, donc, est capable de penser d'une façon remarquable et d'une façon qui implique déjà du moyen terme, hein, dans la mesure où il est capable de mettre en rapport la présence d'un congénère avec une action future, une action qui n'est pas sur le point de se déclencher tout de suite, mais qui va affecter, évidemment, la réussite de son action. En revanche, nous avons un bon contre-exemple du jet, c'est la guêpe amophile qui a été décrite par Nico Timbergen. La guêpe amophile construit des petits terriers dans lesquels elle pond des œufs et ensuite, lorsque les larves se développent, eh bien, il faut qu'elle apporte aux larves la nourriture qui leur convient. Mais les larves ont un âge différent parce qu'elles n'ont pas été pondues exactement au même moment. Et donc, il faut donner à chaque larve la nourriture qui convient à son âge. Comment fait la guêpe amophile? Eh bien, à l'inverse du jet, la guêpe amophile ne se rappelle absolument pas de ce qu'il y a dans chaque terrier. La guêpe amophile est obligée, pour apporter la nourriture qui convient, d'ouvrir le terrier, de regarder ce qu'il y a dedans, refermer, aller chercher la nourriture et revenir nourrir sa larve. Vous voyez, ce n'est pas du tout économique. Ce n'est pas du tout économique, mais enfin, c'est tout de même un dispositif qui marche hein, au fil de l'évolution. Mais évidemment, le jet fait beaucoup mieux, puisqu'il n'a pas à visiter ce qu'il y a, il mémorise ce qu'il a, mais ça, c'est la propriété de la pensée détachée. L'amophile, la guêpe amophile, n'a pas de pensée détachée, elle a une pensée immergée, elle a besoin d'être confrontée au trait de l'expérience, hein, elle a besoin de voir ou de sentir ce qu'il y a à voir ou à sentir pour déclencher l'activité. Elle ne peut pas stocker en mémoire ce qu'elle a fait pour s'en resservir ultérieurement. Donc, Pour conclure, je vous avais parlé tout à l'heure très brièvement de la théorie des animaux-machines de Descartes. Descartes avait tort, je le dis, peut-être j'espère que je ne choquerai pas les philosophes qui sont dans la salle, mais il avait tort de penser qu'il y avait cette coupure radicale entre l'homme et l'animal en ce qui concerne la pensée. Hein. Il n'y a pas de gouffre radical. Ah ben ça alors, la photo n'est pas sortie. Ça alors, oh je regrette beaucoup, là. Il y a un transfert. Alors là, ce que j'avais sur cette photo, c'était extraordinaire, ça vous aurait certainement beaucoup plu. Il y avait un ensemble de... Il y avait un montage de photos où on voyait Bush, George Bush, et un primate qui faisait exactement la même mimique émotionnelle. Mais là, il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a supprimé les photos, considéré que ce n'était pas politiquement correct. Donc vous n'aurez pas les photos, malheureusement. Bon, si ceux d'entre vous qui sont intéressés, vous pourrez les voir sur l'autre ordinateur à la fin de cette conférence. Donc oui, cette photo, cet ensemble, ce montage de photos était censé vous montrer à quel point il y a une correspondance dans les mimiques émotionnelles chez l'homme et chez les autres primates. Hein. En fait, Darwin a un livre célèbre sur l'émotion où il montre que ces émotions se ressemblent en fait non seulement avec le primate, mais même avec les autres mammifères. Hein. Vous voyez chez le chien, par exemple, des expressions émotionnelles que vous déchiffrez sans aucune difficulté. Et ce sont des expressions émotionnelles qui sont effectivement les mêmes. Ce sont les mêmes. Mais il y a des différences malgré tout. Et je voudrais terminer en parlant de modularité. Qu'est-ce que c'est que la modularité? Alors c'est un terme très à la mode, vous l'avez peut-être déjà entendu, pour parler de l'esprit humain. Nous avons effectivement, nous aussi, des modules. Le module est un mécanisme qui est hyper spécialisé, automatique, de traitement d'information. Alors, on reconnaît un module au fait qu'il peut avoir des lésions sélectives. Hein, vous avez, par exemple, un problème de l'expression du langage. Vous pensez très bien, mais vous n'arrivez plus à produire. Ou bien, vous produisez très bien, mais vous n'arrivez plus à entendre le langage. Vous ne le comprenez plus à l'audition. Ou bien, vous avez un problème dans la simple vision des objets. Et puis, le reste va très bien. Donc, vous voyez, c'est ça un module, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Par exemple, l'audition, là, vous entendez du langage, vous ne réfléchissez pas au moment où vous percevez les mots, vous associez immédiatement les idées à ce que vous entendez, vous n'êtes pas en train de vous dire, mais que veut dire l'animal pense? Non, immédiatement, vous avez compris de quoi il s'agissait. Donc, c'est ça un module, c'est quelque chose qui est un mécanisme spécialisé, automatique, et qui a des lésions spécifiques. Le module a une autre propriété très intéressante quand on s'intéresse à l'évolution de l'esprit, c'est qu'il ne traite qu'un seul type d'information. Il ne peut recevoir que celle-là, et pour les autres, eh bien, ça ne l'active pas du tout. Alors quand on regarde l'évolution de la pensée, on voit que la pensée va du plus modulaire au moins modulaire. C'est-à-dire qu'il y a encore de la modularité chez l'homme, mais quand on compare ce qui se passe chez l'homme et ce qui se passe dans les autres espèces, on voit que les autres espèces sont beaucoup plus modulaires que l'homme. Alors pourquoi? Alors, il y a un premier facteur qui est que le langage pourrait avoir constitué un facteur de démodularisation, mais cette démodularisation par le langage ne suffit pas à tout expliquer. Et en fait, cette possibilité du langage pour influencer la modularité et en sortir en quelque sorte tient à une autre chose qu'on appelle l'hétérochronie. Je vais vous en dire deux mots parce que je crois que c'est très intéressant. C'est un facteur qui tient à la programmation de l'apprentissage dans le génome. Vous savez que dans le génome humain, par exemple, nous sommes programmés pour apprendre telle chose à tel moment du développement. Eh bien, c'est grâce à la manière dont les apprentissages sont programmés dans le génome que nous sommes sortis de la modularité. Voyons ce qui se passe chez le singe, chez le petit singe. Chez le petit singe, bon, j'ai pris ABCD pour décrire des apprentissages quelconques, supposer par exemple qu'il s'agisse de l'apprentissage respectif de la perception visuelle, de la manipulation des objets, de la réception des signaux communicationnels, etc. On voit que les apprentissages chez le petit singe, ils se succèdent hein, en fonction du génome. Ils sont prévus pour se mettre bout à bout. Et donc, ils n'interfèrent pas entre eux, parce qu'il y a une propriété qui est donnée, qui est un fait, que les apprentissages qui ne se font pas en même temps ne s'influencent pas. Alors que chez l'homme, les apprentissages se recouvrent en partie et s'influencent entre eux. Et là, je m'inspire du travail de Jonas Langer. Vous voyez que c'est récent, les années 96. Ce sont donc des idées qui sont encore en débat. Du fait que les apprentissages s'influencent entre eux, eh bien, nous avons là l'explication du fait que le langage nous permet de redécrire ce qui se passe dans les autres domaines modulaires et de reprendre tout ça à un niveau où nous pouvons faire communiquer les choses, combiner les informations, combiner les concepts et agir d'une manière qui est détachée des circonstances immédiates de l'action. Donc je crois que là, nous avons une des clés importantes de ce qui fait notre différence avec les autres animaux. Voilà, je vous remercie et donc c'est... Maintenant, j'attends vos questions, bien entendu, et vos réactions.
Merci, Joël Proust. La parole est à vous. Est-ce que je peux vous poser une question pour commencer ? Vous avez effectivement insisté sur les apprentissages et sur le fait qu'au fond, au sens où vous l'entendez, la pensée, c'est la capacité de se forger des représentations, c'est-à-dire d'apprendre, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a, une différence qui nous vient à l'esprit entre le monde animal et le monde humain, disons, c'est que les exemples que vous avez cités des animaux sont des apprentissages que fait l'individu dans sa relation à son environnement, à son expérience perceptive. L'une des caractéristiques des apprentissages humains, c'est que nous apprenons des autres humains. Est-ce qu'il y a dans le monde animal des apprentissages qui se font par transmission des congénères ?
Ah oui, ça c'est une question très importante et aussi une autre, pour vous répondre, il faut que j'ajoute une chose, c'est que je n'ai pas du tout évoqué les conditions acquises ou innées des apprentissages. Et là, il faudrait évidemment, il aurait fallu une heure de plus pour parler de ça, j'ai choisi de ne pas l'évoquer. Alors, est-ce que l'on trouve une transmission en fait de la culture chez l'animal ? La réponse peut pas aller de soi et je dois dire qu'il y a des débats encore très très acharnés sur cette question. Vous connaissez peut-être le phénomène, c'est le phénomène de chez le chimpanzé en particulier, le phénomène de ce qui ressemble à de l'enseignement. La mère chimpanzé semble apprendre à son enfant comment se servir d'une enclume. Vous savez, elle prend un grand caillou et puis elle met une noix qu'elle doit casser et elle prend un caillou qu'elle doit projeter sur l'enclume et sur la noix, évidemment, pour ouvrir la noix. Alors, certains éthologues ont observé que la mère semblait ralentir le geste lorsqu'elle était observée par son enfant. Et donc, ils en ont conclu qu'il y avait une intention d'enseigner. Le deuxième exemple qu'on donne, c'est l'exemple des lavages de patates douces par je crois que ce sont des chimpanzés japonais. Un individu, un jour, a lavé ses patates dans l'eau et progressivement, le groupe s'y est mis. Alors là aussi, on s'est demandé, est-ce qu'il y a imitation, est-ce qu'il y a enseignement, etc. Et pour vous résumer le débat, je dirais que quand même les partisans de l'enseignement ont perdu. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à reproduire en laboratoire, c'est-à-dire dans des conditions contrôlées, ce type de phénomène. On n'a pas réussi à faire qu'un individu non humain apprenne réellement d'un autre comment faire. En revanche, ce que les animaux sociaux font, c'est qu'ils tirent parti de l'activité de leurs congénères pour comprendre qu'il se passe quelque chose de pertinent à un endroit donné. C'est ce qu'on appelle l'émulation. Par exemple, les mésanges, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple, les mésanges ont appris à décapsuler les bouteilles de lait en Angleterre. Et donc là, ça s'est produit d'une façon vraiment étonnamment proche d'un phénomène culturel. C'est-à-dire que d'abord, quelques mésanges ont fait cela, et puis progressivement, toutes les mésanges s'y sont mises. Alors, comment ont-elles fait? Eh bien, là aussi, les conditions expérimentales nous permettent de dire qu'elles ne savent pas, voyant un congénère décapsulé, elles ne savent pas ce qu'il fait au juste. Mais ce qu'elles savent, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, elles vont elles-mêmes s'approcher de l'objet pertinent pour voir ce qu'elles peuvent en faire. Donc, apparemment, c'est la capacité de séquentialiser les comportements pour savoir imiter le détail du programme d'action, seul l'homme est capable de le faire. En revanche, chez l'animal, il y a socialement une espèce de prime à l'objet qui a intéressé les congénères.
Je me permets de rappeler l'ouvrage de Hinde, professeur éthologue à Cambridge, et qui remonte à plus de 50 ans, et dont une traduction française en 2 tomes a été publié par les presses universitaires de France, voilà déjà un quart de siècle. Eh bien, Hinde rappelle que le vautour d'Égypte était capable, et moi comme ancien pilote de chasse, ça m'intéresse, de bombarder à l'aide de pierres des œufs d'autruche pour s'en régaler après. Or, sur des espèces voisines, on a essayé d'inculquer ça par expérimentation, et ça n'a pas marché. Il y a donc, lorsqu'on oppose l'acquis et l'inné, il y a quand même parfois aussi, dans l'inné, une capacité d'apprendre quelque chose. Absolument. Qu'une autre espèce n'aurait pas.
Absolument. Oui, vous avez parfaitement raison. Ça fait partie des choses que j'aurais aimé pouvoir développer. C'est vrai qu'un apprentissage ne se fait jamais, jamais, y compris chez l'homme, sans que les conditions d'acquisition de cet apprentissage soient là. Donc on n'apprend pas n'importe quoi. Il y a des choses qu'on ne peut jamais apprendre. Ça aussi, c'est quelque chose que les...
Il y a eu un génie au départ, oui. C'est le premier bout.
Alors là, par contre, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le génie, c'est l'évolution qui a sélectionné un comportement. Parce que là, c'est quand même visiblement quelque chose qui est une manifestation motrice innée. Ce qu'on appelle une manifestation motrice innée, je ne pense pas...
Attendez, monsieur, on va vous demander de parler dans le micro, parce que c'est enregistré et on a besoin de garder la trace de tout ça. Quelqu'un là-bas, oui. Oui, allez-y.
Sans parler de Descartes, qu'en est-il d'une machine, d'un robot, d'un automate intelligent qui ont des capacités d'apprentissage, qui ont des capacités de représentation aussi? Peut-on dire que ça pense? Et de même pour un essaim d'insectes, comment dire aussi, une fourmilière, une termitière, un groupe de primates, peut-on dire que ça pense?
Alors oui, vous posez là une question très très vaste. Alors pour parler des machines d'abord, les machines pensent-elles? Ça fait couler beaucoup d'encre philosophique, cette question. L'état d'équilibre de la question est le suivant. À la suite de John Searle, le philosophe de Californie qui avait fait une expérience de pensée, en fait, il avait représenté un ordinateur dans son expérience de pensée. C'était un prisonnier qui se trouvait dans une chambre close et on lui donnait par un petit trou des messages en chinois, alors que lui ne comprenait pas le chinois. On lui donnait aussi des registres très compliqués pour transformer les symboles qu'il recevait en symboles toujours qu'il ne comprenait pas, mais dont il avait simplement la liste, hein. Et puis il mettait ça dans une autre fente, et voilà, c'était son travail permanent. Hein. Voilà l'image de l'ordinateur d'après John Searle. Et il concluait de son expérience de pensée, eh bien, ce prisonnier qui fait ce travail tuant de transformer des formules sans savoir ce qu'il fait, il n'a aucune signification en tête. Il ne se représente à rien du tout. Il n'a pas de pensée lorsqu'il fait ça. Hein. Il n'a pas de pensée sur les contenus. Et donc l'ordinateur ne pense pas. C'était la conclusion de John Searle. Et je pense que John Searle, aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec lui, si on prend l'ordinateur coupé de toute connexion avec l'environnement, coupé de tout intérêt aussi pour sa propre connexion avec l'environnement, Nous avons là quelque chose qui est une prothèse humaine. Hein, nous avons besoin d'ordinateurs pour nos propres besoins représentationnels et computationnels, mais ce n'est pas une entité qui suffit elle-même, qui n'a pas les capacités suffisantes pour être dite pensée, précisément parce qu'elle n'a pas de rapport à l'environnement, elle n'a pas de rapport non plus de motivation à l'avoir. Donc là, je pense répondre à votre question. Est-ce que ça ne vous convient pas? Alors, les essaims d'insectes, etc., ça a été en revanche très bien étudié par Guy Terolaz et d'autres sur cette question, c'est passionnant. Savoir si, cette fois, la pensée est distribuée d'une certaine façon, au lieu que ce soit un individu tout seul, c'est l'ensemble de l'essaim qui a besoin de tirer de l'information collective pour se diriger, pour exploiter son environnement. De même pour les termites, de même pour les fourmis. Nous avons là un type de pensée distribuée, donc de multi-agents, qui est très intéressante à étudier, mais qui a des propriétés très différentes de celles que j'ai examinées aujourd'hui. Donc ça, c'était une très bonne idée de parler de ça. Bon, quant aux autres, les primates, etc., bien sûr, je pense qu'effectivement, ils pensent. J'espère vous en avoir convaincu aujourd'hui.
Oui, la question est très intéressante, surtout que j'ai toujours été hérissé par le mot intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez casser ce terme? J'espère, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas votre avis, mais c'est affreux. Est-ce que ça fausse l'esprit des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'informatique? S'il vous plaît.
Oui, ben, la notion d'intelligence artificielle, c'est au départ, c'était quand même l'idée de parler de quelque chose qui, lorsqu'elle est faite par l'homme, demande de l'intelligence. C'est ainsi que Turing, je crois, s'était exprimé. Mais aujourd'hui, je crois que les gens qui font de l'intelligence artificielle ont le projet, continuent à avoir le projet de rendre leurs ordinateurs non seulement moins bêtes, mais plus proches de ce qui se passe chez les animaux, d'essayer vraiment de reproduire artificiellement les propriétés du vivant. Là, nous n'y sommes pas du tout, mais il y a déjà des tentatives pour utiliser des matériaux vivants dans les ordinateurs. Donc là, c'est très difficile de savoir, de spéculer sur l'avenir de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a des possibilités certainement pour qu'apparaissent des androïdes dans un futur indéterminé. La question est ouverte, en tout cas.
Oui, le mot pensée est ambigu parce que vous avez parlé comme appareil des ordinateurs. En fait, moi j'aurais plutôt pensé aux robots. Les robots sont construits par l'homme pour faire certaines choses et on peut penser à des robots de plus en plus complexes et qui finalement, même dans un certain sens, arriveraient à dépasser l'homme, en tout cas dans une fonction déterminée. Ce qui a été prouvé par l'histoire du joueur d'échecs. Bon, pour en revenir à Descartes, Descartes a pensé que les animaux étaient des mécanismes. Mais dans tout ce que vous avez donné comme argumentation, je pense que, les animaux, on pourrait continuer à les penser comme des mécanismes. Et la différence qui sépare le vivant du non-vivant a été très souligné par Damasio, et quand il parle de l'erreur de Descartes, c'est uniquement parce que une machine, un robot, si perfectionné soit-il, n'a pas d'affectif. Et je pense que c'est ce qui distingue considérablement les robots du reste, enfin des vivants en général, que ce soit des robots, que ce soit des animaux qui ont des cognitions très développées, ou au contraire comme l'homme, ou au contraire des cognitions très faibles. Au fond, on pourrait penser qu'un être vivant est quelque chose qu'on appelle l'affectif et qui emploie des moyens plus ou moins sophistiqués au fur et à mesure d'évolution. Ces moyens se sont perfectionnés. Donc il y a un côté affectif qui est quand même très important.
Vous avez l'impression que je n'ai pas suffisamment rendu justice à l'affectif. Vous pensez que l'émotion ne peut pas être étudiée par les gens qui s'occupent de cognition? Par exemple, Damasio est un spécialiste de sciences cognitives.
Ce que je pense, c'est que si vous parlez, par exemple, prenons la douleur, et Dieu sait si ça a un retentissement sur l'affectif, eh bien la douleur, pour quelqu'un qui n'aurait jamais perçu de la douleur, subjectivement, mais à qui on aurait expliqué objectivement tout ce que ça produit au point de vue neurologique, bah finalement, il lui manquerait une dimension pour connaître la douleur.
Oui, ça, vous avez parfaitement raison. Mais ce que je ne comprends pas, c'est en quoi mon exposé prêtait le flanc à cette objection. Je suis persuadée, quant à moi, que la cognition est impossible sans émotion. S'il n'y a pas une association qualitative sur le côté plaisant ou déplaisant d'une expérience, eh bien, on ne peut pas la classer comme quelque chose qu'il faut reproduire ou qu'il faut éviter. Donc, on a besoin d'émotions pour la cognition. L'opposition émotion-cognition a disparu aujourd'hui. Enfin, les gens qui s'occupent de l'esprit humain savent très bien qu'il est impossible de comprendre un comportement si on ne voit pas ce que l'animal s'attend à trouver, c'est-à-dire ses motivations et ce qu'il veut absolument pas trouver. Hein, donc cette notion d'affordance, sur laquelle je suis passée un petit peu vite, c'est une notion d'intérêt pour. Donc l'émotion est nécessairement présente dans le cerveau pour signaler à l'animal, voilà quelque chose que je recherche, voilà quelque chose que je fuis. Donc effectivement, nous avons de l'émotion au centre de la cognition. Maintenant, je ne sais pas si votre remarque sur la douleur était destinée à revenir sur les problèmes de méthode du début. Prenons-nous le point de vue de la conscience ou prenons-nous le point de vue de la représentation ? Évidemment, quand on parle de douleur, on sait quel est le déplaisir de la douleur parce qu'on l'a ressenti. Mais la question est de savoir, est-ce que nous avons besoin de savoir à quoi ressemble la douleur chez la guêpe, mettons, pour traiter du comportement de la guêpe ? Et je pense que non, nous n'avons pas besoin de savoir à quoi ressemble exactement le vécu de la guêpe à partir du moment où nous avons prouver qu'elle avait un comportement aversif vers quelque chose. Nous avons donc l'essentiel des fonctions de la douleur qui apparaissent dans le comportement et dans l'activité neuronale, évidemment, de la guêpe. Donc il y a, me semble-t-il, des façons de se dépêtrer de cette difficulté de la conscience pour quand même pouvoir comprendre quelque chose du comportement animal.
Oui, j'ai été très... Enfin, j'ai trouvé votre exposé très... J'ai trouvé l'exposé très intéressant.
Vous pouvez faire ça, je ne vois pas où vous êtes. Oui.
En haut sur votre droite.
Oui.
J'ai trouvé cet exposé très intéressant et ça m'a... Si vous voulez, je vais essayer de dire très simplement, pas avec des termes aussi savants que vous. J'ai été un petit peu émerveillée par ce que vous exposiez. Et une pensée m'est venue quand vous parliez de l'araignée. Vous avez dit que l'araignée perçoit. Et une pensée m'est venue, qu'est-ce qu'il perçoit dans l'araignée ? D'où un petit peu, je reste un petit peu sur ma faim, le fait que vous ayez écarté complètement le mystère de la vie qui est dans l'araignée. Bien entendu, vous êtes une chercheuse et c'est le côté rationnel qui est important pour disséquer. La question, c'était qu'est-ce qu'il perçoit dans l'araignée ? Et qu'est-ce qu'il perçoit dans chaque être vivant que vous disséquez, que sur lesquels vous réfléchissez ? Et là, c'est le côté du mystère qui est écarté très rapidement et qui aurait ouvert peut-être des horizons encore plus grands pour vous si vous aviez introduit ce côté qu'est-ce qu'il perçoit dans l'araignée ?
Voilà. Je ne sais pas si je peux vous répondre. Là. Vous vous situez sur un registre que vous dites échappé au registre rationnel et je suis là pour vous expliquer les travaux. Alors maintenant, si vous, cela vous fait rêver, et si vous avez envie de d'approfondir cette dimension, je vous en laisse le droit absolu. Mais je ne peux pas, moi, dans ce que je fais, dans mes intérêts, partager ce point de vue.
Monsieur. Dans l'exposé « La pensée avant le langage », il y a une question qui est souvent débattue. Est-ce que l'homme, ce sont la structure de ses organes fellatoires qui ont permis la parole et qui ont permis le développement de la pensée ? C'est-à-dire affiner la pensée du cerveau humain grâce à l'utilisation du langage, ou est-ce que le cerveau humain s'est développé d'une certaine façon spécifique, et Il s'est exprimé par le langage, ce que nous appelons le langage, c'est-à-dire le langage articulé, et il aurait aussi bien pu s'exprimer autrement s'il n'y avait pas eu d'organes phonatoires. Il n'y a qu'à voir le langage des signes. Après tout, on n'a pas besoin d'organes phonatoires pour communiquer. C'est-à-dire, toutes les expériences qui ont été faites avec les chimpanzés, gorilles et autres, on a réussi à leur faire utiliser des touches d'ordinateur, reconnaître des signes, placer des lettres, etc. Mais en fait, on pourrait résumer, ils n'ont jamais rien dit parce qu'ils n'ont rien à dire. Sauf ici et maintenant, je veux une banane et autres. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette idée que le cerveau humain s'est développé d'une certaine façon, avec le côté des affects, la vision de l'avenir, la remémoration du passé, l'expérimentation, etc. Et que le langage a été une des capacités qui nous a permis de communiquer comme nous le faisons. Et à défaut du langage, on aurait pu communiquer autrement. On aurait pu se développer l'intelligence humaine sans le langage.
Alors, je pense qu'effectivement, je partage ce point de vue que vous venez d'évoquer. Le langage n'était pas une fatalité. D'ailleurs, j'avais préparé une réponse à cette question parce que je m'attendais bien à ce que quelqu'un me le pose. Il y a eu un article tout à fait remarquable par Hauser, qui est un spécialiste de biologie animale, et Chomsky, qui est le grand linguiste, qui est paru dans Science en 2003. Et très curieusement, ils défendent l'idée que le langage n'est pas une adaptation. Autrement dit, si nous sommes pourvus de langage, ce n'est pas pour les raisons que nous croyons. Alors, premièrement, ce n'est pas parce que nous en avons besoin pour penser, puisque j'ai essayé de vous le montrer, on peut penser sans le langage. Ce que Chomsky et Hauser montrent, c'est que la complexité du langage ne vient pas vraiment de ce que l'on pense, à savoir le fait qu'il y ait des phonèmes qui soient proférés publiquement, etc. Ce qui est important dans le langage, c'est la syntaxe. C'est le caractère récursif. C'est le fait de pouvoir emboîter des phrases en d'autres phrases, en d'autres phrases. Les chimpanzés, par exemple, ils sont capables d'écrire des phrases de trois mots. Quand on leur apprend un langage élémentaire, ils sont capables de produire et de comprendre des phrases du genre « le couteau coupe la pomme ». Ils peuvent très bien avoir des phrases sujet, verbe, complément d'objet. Ils peuvent faire des phrases de trois mots et des phrases nouvelles de trois mots, ce qui est pas mal quand même. Vous avez l'air de mépriser ça. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'ils soient capables de cela. Ils peuvent tirer, comme nous aussi, partie de l'activité symbolique d'une façon étonnante. Il y a une expérience extraordinaire qui a été faite par Sarah Boysen sur des chimpanzés. Elle leur a appris à compter jusqu'à 9, avec des mots en plastique. Alors ensuite, elle leur donne une tâche qui est infaisable pour eux, qui consiste dans la chose suivante. Ils ont deux plats de chocolat, avec beaucoup de chocolat sur une assiette, très peu dans l'autre. La tâche est de montrer les chocolats qui iront à un autre congénère. Et eux auront la deuxième assiette. D'accord ? Eh bien, un chimpanzé, dans des circonstances de ce genre, il ne peut pas s'empêcher de montrer l'assiette avec tous les chocolats, avec les nombreux chocolats, parce que c'est ça qu'il veut avoir. Bon, le pointage ostensif n'est pas un geste spontané des chimpanzés, mais on leur apprend ça dans les centres expérimentaux, donc ils savent pointer, et ils pointent toujours vers l'assiette qu'ils veulent, quoi. Maintenant, si on remplace les chocolats par des mots en plastique, et donc ils ont, mettons, 9, 2, et bien là, ils réussissent très bien la tâche. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant, parce que ça nous explique comment nous, humains, parvenons à développer cette remarquable capacité d'inhibition, de ne pas nous jeter automatiquement sur les choses, attendre, etc. C'est que nous avons le langage qui est une sorte d'intermédiaire entre la chose même et la pensée, et l'action. Nous pouvons, grâce au langage, prendre en considération un ensemble de contraintes, les règles, etc., et d'agir de façon beaucoup plus efficace. Donc le langage, vous voyez, c'est quelque chose de très extraordinaire. La récursivité qui est au cœur, nous ne la voyons même pas, alors que c'est elle qui explique vraiment l'immense bienfait du langage sur le plan de notre pensée. Ce n'est pas tellement la capacité de communiquer auditivement, parce que ça, d'autres animaux le font aussi. Ils sont capables d'échanger des signaux sur la nature d'un prédateur. Par exemple, beaucoup d'espèces, y compris la poule, est capable de distinguer dans son cri d'alarme s'il s'agit d'un danger aérien ou d'un danger à terre, hein, si c'est un serpent ou si c'est un aigle. Les petits singes aussi sont capables de faire ces cris d'alarme catégorisateurs. Mais la capacité de planifier à long terme, la capacité de s'empêcher de faire quelque chose parce que ça n'est pas le moment, ça, c'est vraiment le langage qui, à mon avis, nous permet de le faire.
Oui, j'aurais voulu revenir sur le sujet de l'apprentissage.
Oui, de vous.
Oui. Oui, vous avez cité tout à l'heure l'histoire de la mère chimpanzé. J'avais effectivement vu un documentaire là-dessus et je ne connaissais pas la conclusion officielle entre apprentissage et non-apprentissage. Et je voulais poser la question sur une chose dont tout le monde a pu être témoin à un moment, c'est chez les félins, bon, ne serait-ce que chez le chat domestique. Est-ce qu'il n'y a pas apprentissage, même s'il y a une partie innée qu'un chat tout seul retrouvera comme un sachet, mais tout le monde a pu observer une maman chat emmenant ses petits à la pêche ou à la chasse. Et là, il n'y a pas d'apprentissage ?
Mais si, mais je ne sais pas. Alors, je m'étonne de ne pas. Je me suis vraiment mal fait comprendre parce que je pense que l'apprentissage, il a toujours les deux composantes. Un apprentissage a une composante innée, oui. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas n'importe quoi. On apprend ce qui est dans un répertoire. Et le répertoire, il est prédéterminé. Mais effectivement, ce répertoire, pour être actualisé, dans un individu donné, il faut qu'il soit soumis à un exercice. Prenez le langage lui-même. Si un enfant n'est pas soumis à un environnement langagier, il n'apprendra pas le langage. Et pourtant, il en a la capacité. Mais il faut que ses capacités soient activées par son environnement. Ben, c'est le cas pour l'ensemble des apprentissages. Même les apprentissages moteurs, on a pu montrer que des petits chatons qui sont élevés dans un carrousel dans lequel ils bougent, mais passivement, c'est-à-dire ils sont tirés par d'autres animaux, eh bien les petits chats qui sont tirés, eh bien n'apprennent pas à se déplacer, ils deviennent des handicapés moteurs, si vous voulez.
Mais donc la conclusion pour les chimpanzés, c'est qu'il n'y avait pas d'enseignement, pas pour l'histoire de
non, casser. Mais attendez, apprentissage, ça recouvre des choses très très variées. D'accord. L'enseignement, c'est pas n'importe quel apprentissage. D'accord. L'enseignement, c'est un apprentissage supervisé par quelqu'un qui vérifie que vous avez bien appris et qui fait en sorte que l'enseignement passe. Et ça, c'est très différent de l'apprentissage dont je parlais.
Merci. Une autre question là-bas.
En bas sur votre droite.
C'est bon, non ? Oui. Sachant que la capacité d'apprendre est intimement liée à l'émotion, est-ce qu'on peut parler d'émotion chez l'animal ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Il y a de l'émotion. Dès qu'il y a capacité d'apprentissage, il faut qu'il y ait une forme de réception positive ou négative. Alors, peut-être que votre question vient d'une exigence supplémentaire sur l'émotion. L'émotion doit être consciente, elle doit être élaborée consciemment, comme elle l'est chez l'homme. Et là-dessus, je n'ai pas de position ferme. Si nous spéculons, si nous autorisons la spéculation, j'ai tendance aujourd'hui à penser que l'expérience qualitative n'est pas le propre de l'homme. Je pense que nous voyons clairement qu'un animal qui souffre, il souffre en gros comme nous. Il a mal. Je veux dire, j'ai du mal à me représenter ce que serait une souffrance sans qualité. Mais ça, c'est de la spéculation parce que personne encore, à ce jour, n'a d'argument objectif pour dire que la conscience que nous avons, aussi bien du plaisir que de la douleur, eh bien, c'est la même chose lorsque nous nous passons d'une espèce à l'autre. Nous n'avons pas de preuve de cela. Il est peut-être envisageable que le progrès de nos connaissances en neurophysiologie nous amène à mieux saisir les analogies de ce point de vue-là.
Quand il s'agit d'émotions, vous faites, et ça a été tout à l'heure dit aussi, vous faites allusion à la souffrance. Et moi, je ne prendrais pas ça comme référence parce que la souffrance est liée au fait que les nerfs sont... que quelque chose va provoquer quelque chose à un niveau nerveux. J'entendais par émotion la capacité d'un animal d'être attendri, d'être heureux, d'être, c'est-à-dire un type d'émotion qui se rapporterait plutôt à la sensibilité humaine. Pour moi, la souffrance, elle est liée à quelque chose de très précis qui s'adresse au physique et non pas à une souffrance mentale ou un choc, un coup, une coupure.
Je comprends votre question, mais je résiste. Les émotions les plus élevées sont encore des émotions qui utilisent des neurones. Nous avons parlé tout à l'heure du travail d'Antonio Damasio. Il fait une étude extrêmement précise de tous ces affects. Et il montre quels sont les supports anatomiques de ces affects. Donc, ce ne sont pas les mêmes que ceux de la douleur, vous avez raison, mais ces supports anatomiques existent. Et un individu qui serait lésé dans ses supports anatomiques est également privé des émotions correspondantes. Donc, il n'y a pas de raison d'opposer des sentiments qui seraient, entre guillemets, psychiques ou culturels, et d'autres qui seraient... présent dans le cerveau à titre de gros câbles. En fait, tout ça, c'est exactement au même niveau sur le plan anatomique. Vous voyez ? Donc, je crois que là, il y a un virage à prendre pour mieux comprendre de quoi nous sommes faits, parce que votre remarque, elle est très souvent en fait. Tout le monde reste dualiste. Nous sommes pétris de dualisme. Ça fait partie de la compréhension que nous avons de nous-mêmes que de nous concevoir comme étant en partie corps, mais en partie tout de même de l'esprit. Or, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le cerveau et sur l'esprit, c'est qu'il n'y a rien qui ne soit représenté neuronalement. Attention, je ne veux pas dire que les neurones ils poussent tout seuls. Les neurones, ils sont là parce qu'il y a des échanges avec le monde, et c'est vraiment, ils reflètent une expérience. Mais néanmoins, ces neurones sont le support de l'information et des qualités de ce que nous ressentons. Donc il n'y a absolument rien dans notre vie psychique qui ne soit pas représenté neuronalement.
Il semblerait que certains animaux soient doués d'empathie, ou capables. Comment classez-vous ce type de comportement ?
Oui, l'empathie, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je continue d'ailleurs. Et la raison pour laquelle je travaille sur ce sujet, c'est que depuis peu d'années, on a découvert des neurones de l'empathie. Alors c'est vraiment extraordinaire, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons commencer à réfléchir de façon sérieuse, parce que nous savons exactement ce que font ces neurones. Les neurones de l'empathie, d'ailleurs j'en parlerai à la prochaine séance de façon beaucoup plus détaillée, mais en gros, les neurones de l'empathie, ce sont des neurones qui permettent de faire résonner en soi-même ce que l'on voit qu'un autre est en train de faire ou d'éprouver. Ce sont les neurones miroirs. Oui. Donc, par exemple, si vous voyez quelqu'un prendre un objet en utilisant un certain geste, ces neurones-là s'activent chez vous, alors même que vous n'avez pas fait ce geste, mais c'est les neurones. Si vous aviez fait ce geste, les mêmes neurones auraient été actifs. Donc, ça veut dire que lorsque vous observez quelqu'un, vous raisonnez avec votre système nerveux à ce qu'il fait. Votre système nerveux simule ce que fait l'autre. Et c'est vrai non seulement de l'action, c'est vrai aussi de la douleur. Ça a été prouvé que quand vous voyez quelqu'un qui éprouve une douleur dans la main, par exemple, eh bien vos neurones, à vous, ceux que vous auriez eu actifs si vous aviez eu mal à cette main, eh bien il y a des neurones qui vont s'activer de façon précise, sélective, en fonction de ce que vous avez vu. Donc ça, c'est extraordinaire. Oui, je vais répéter la question. Est-ce qu'un animal peut être doué d'empathie face à une autre espèce ? Alors, la réponse, c'est que oui, puisque ces neurones miroirs ont été mis en évidence entre le macaque et l'homme. Bon, vous me direz, on est entre primates. Hein ? Mais là, les travaux ne sont pas faits hein, pour le reste. Mais je pense qu'intuitivement, on sent bien que l'empathie dépasse les frontières des espèces, mais certainement avec des limites, c'est clair aussi. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment.